Nous fêtons aujourd'hui également, enfin la liturgie ne prévoit pas que cela prime sur un dimanche, la conversion de saint Paul. C'était cette semaine la prière, enfin la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et le retour des chrétiens séparés à l'unité catholique. Il n'est jamais trop tard pour confier cette belle cause au cœur de Jésus et demander, supplier qu'il veuille bien avoir raison des cœurs, notamment des musulmans, bien au-delà des frontières donc de l'Église et des chrétiens, que nous puissions obtenir la conversion des musulmans, car je crois que c'est la seule solution aux maux que nous rencontrons aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais vous faire une petite confidence, je vais vous parler de ce qu'on me dit en confession. Rassurez-vous qu'aucun d'entre vous ne se sente visé, ou plutôt que tous parmi vous vous sentiez visé, parce que je voudrais dévoiler que la première chose ou la chose la plus importante et récurrente que vous accusez tous, ben oui, c'est 100% en fait des confessions qui concernent ce sujet, c'est que vous ne savez pas prier ou que vous ne prenez pas suffisamment le temps de prier. Vous voyez que je n'ai pas défloré grand secret de les profondeurs de votre âme ou des turpitudes que vous pouvez rencontrer par ailleurs. Cette difficulté à prier, évidemment, nous essayons tant bien que mal d'y remédier. Alors, tantôt, parce que nous sommes assez efficaces, nous cherchons des méthodes, nous achetons livre sur livre, ou au moins nous consultons ce qu'ont pu nous dire les grands saints de la façon de prier. Tout cela est bel et bon, mais insuffisant. Ou bien encore, mais cela ne vous concerne pas, ça concerne plutôt nos contemporains un peu apostats de l'Europe jadis chrétienne, ils se tournent vers ces méthodes de prière zen qui permettent, eh bien, par une indifférence progressive à l'égard d'autrui, à l'égard de la création, et un repliement sur soi, plutôt sur son propre nombril, nous dit-on, d'atteindre le nirvana. Voilà, c'est sans cesse par haine de soi et par préférence pour ce qui vient de loin que l'on vante aujourd'hui dans toutes sortes de revues et d'émissions les méthodes que ces hommes, depuis des millénaires, décidément profondément intelligents, nos amis d'Extrême-Orient, ont découvert depuis bien longtemps comment prier. Alors évidemment, la solution chrétienne, vous l'imaginez bien, ne réside ni dans les méthodes, la recherche d'efficacité à tout prix. Rien n'est plus étranger à la prière que l'efficacité, en réalité. Et puis, pas non plus dans une sorte de repli sur soi et d'introspection permanente qui, rapidement, vire à la nausée. Parce qu'à trop se regarder, on se désespère. La solution, elle est donnée par Jésus, soit explicitement dans l'Évangile, lorsqu'il apprend à ses apôtres le Notre Père, c'est la seule prière que Jésus ait explicitement appris à ses proches, soit par l'exemple qu'il nous donne de ses longues heures, nous dit-on, qu'il passait à prier, montant sur la montagne, il pria, et au lever du jour, il rejoint ses apôtres. Bref, Jésus passait sa vie à prier, et ses apôtres étaient subjugués par l'exemple du Maître. Mais enfin, il faut bien reconnaître que Jésus nous en dit finalement assez peu. C'est, et c'est assez étrange, c'est dans d'autres figures de l'Évangile que nous pouvons trouver des éléments plus clairs, des éléments plus concrets de la façon dont il faut prier. Et nos éducateurs en la matière, étrangement, comme dans l'Évangile d'aujourd'hui, sont des personnes qui ne sont pas des juifs exemplaires ou qui ne sont pas même de l'entourage de Jésus. Je veux parler du lépreux d'aujourd'hui et de ce centurion qui est un païen et qui vient trouver le Seigneur Jésus. Dans la figure du lépreux et du centurion, nous avons rien moins que des maîtres de la prière. C'est assez étonnant. On trouve dans la figure de ces hommes-là plusieurs choses. Je n'en retiendrai que deux parce qu'il fait froid, que j'ai pitié de vous et de moi-même et qu'il faut vite aller battre le pavé à Paris. Je voudrais simplement vous indiquer que la solution à tous nos maux, la vraie méthode pour entrer dans la prière, ce n'est pas de multiplier les exercices spirituels, vous vous en doutez. Ce n'est pas non plus de passer son temps à demander. La première grande prière, la porte d'entrée dans la prière, c'est tout simplement l'adoration. Et ça tombe bien parce que l'introïde d'aujourd'hui, je viens de m'en rendre compte, commence par ces termes « Adorate Dominum ». Il faut adorer le Seigneur. Qu'est-ce que c'est que cette adoration ? C'est la reconnaissance humble, confiante, que Dieu est tout et que nous ne sommes rien. C'est la prise de conscience que nous devons tout attendre de Dieu qui est créateur et qui est sauveur. N'est-ce pas exactement la conduite du lépreux et du centurion ? Il faut, pour bien adorer, que non seulement l'âme soit engagée, mais que le corps soit engagé. Très souvent, nous avons trop pitié de nous-mêmes, et parce que nous estimons que nous sommes fatigués, mais à croire cela, je crois que tous les jours, nous pouvons trouver des motifs de fatigue, et donc nous épargner bien des efforts. En réalité, nous avons une sorte de paresse spirituelle, une paresse spirituelle à laquelle il faut remédier par une disposition du corps. Si votre âme s'égare sans cesse, si votre esprit part à volo, vous avez un moyen de vous ramener à l'adoration, très simple, très efficace, tout simplement de vous mettre à genoux. C'est exactement ce que fait ce lépreux qui aurait bien des motifs de ne pas se mettre à genoux, des motifs autrement plus profonds que nous, tellement les souffrances qu'il connaissait dans son corps lui auraient en principe permis de ne pas se mettre à genoux. Voilà qu'il se jette aux pieds du maître, qu'il se met à ses genoux et qu'il le supplie. Le centurion romain n'en est pas là, parce que si le lépreux vient du peuple élu, le centurion n'est qu'un païen. Il n'a pas ces mœurs juives où l'on se mettait à genoux, il reste debout, mais enfin, il s'approche, n'ayant que faire de la rumeur populaire, n'ayant que faire des sobriquets que ses soldats vont plus tard lui donner sans doute, de bon dieuzard ou que sais-je encore, de simplet, de naïf, lui qui est un digne soldat de l'Empire, voilà qu'il se jette aux pieds d'un pauvre rabbi. C'est quand même assez pitoyable pour un centurion, mais voilà qu'il n'a que faire du respect humain, qu'il s'approche de Jésus, et cela est déjà une conduite physique d'adoration. Il y a plus encore que dans cette conduite physique, bien sûr, des dispositions de cœur à avoir, une profonde humilité, qui commence tout simplement par reconnaître humblement que nous ne sommes qu'un tas de péchés. C'est ce que fait évidemment ce lépreux, parce que la lèpre, ici, en réalité, symbolise, nous le savons bien, la lèpre de notre cœur, la lèpre de notre âme, le péché dont nous sommes des pieds à la tête affectés depuis que, malheureusement, nos premiers parents ont péché. Et puis, il faut bien avouer que nous avons une sorte de génie à y ajouter encore tous nos péchés personnels. Il faut donc reconnaître sa misère. Il faut reconnaître que nous ne sommes rien. Le centurion romain lui-même reconnaît qu'il n'est pas suffisamment digne pour recevoir chez lui ce rabbi Jésus. Les deux, donc, sont, et dans leur corps et dans leur âme, dans une profonde révérence d'adoration. Je vous assure que si vous ressentez un malaise à prier, si vous n'arrivez pas à prier, à entrer dans la prière, plutôt que de rechercher des méthodes, plutôt que de geindre ou de jeter l'éponge, comme nous le faisons si souvent, je vous recommande de commencer à vous mettre à genoux et à supplier Dieu, eu égard à ce que vous êtes, pas grand-chose, pécheur, et à ce qu'il est, lui, capable de vous relever. Si tu le veux, tu peux me purifier. Imaginez le bonheur de Jésus, si tu le veux, comme si Jésus voulait autre chose que nous purifier de nos péchés. Jésus est tout prêt, il se tient à la porte, il frappe, comme il nous le dit ailleurs dans l'Évangile. C'est de notre côté que le bât blesse. Est-ce que nous voulons être purifiés de notre péché? Nous trouvons un certain plaisir, caché bien sûr, que nous nous avons même pas à nous-mêmes, à pécher. C'est quand même sympathique de pécher, il faut bien le reconnaître. Et il faut donc résolument accepter et de reconnaître son péché et vouloir se sortir du péché. Par ce mouvement d'adoration, alors Jésus s'engouffre dans notre âme et nous purifie avant même que nous allions au confessionnal. Je ne suis pas en train de dire que le confessionnal est vain. Toute la tradition reconnaît dans ce passage du lépreux qui se fait guérir une annonce du sacrement de pénitence et de réconciliation. Mais enfin, je vous dis que avant même d'aller au confessionnal, le Seigneur, s'il lui plaît, qui est au-delà des sacrements, c'est le Concile de Trente lui-même qui l'enseigne, purifie l'âme qui est dans l'adoration et qui est dans la contrition. Un deuxième et dernier élément que je voudrais souligner, vous voyez que je suis bref aujourd'hui, c'est le fait que Jésus demande à ce lépreux de ne pas aller se répandre quant au bienfait qu'il a reçu de lui. Avouez que c'est quand même très surprenant. On s'attendrait à ce que Jésus fasse de ce miracle une sorte d'argument apologétique qui atteste qu'il est bien le Fils de Dieu. Et nous attendrions à ce que Jésus ait tout intérêt à, au contraire, envoyer ce lépreux de par les routes de Palestine, témoigner de ce qu'il a reçu, donc montrant que Jésus est effectivement le Messie. Bien au contraire, il lui demande de se taire. Pourquoi cela? Alors qu'en d'autres passages, le Seigneur Jésus demande au contraire d'aller répéter les bienfaits, d'aller témoigner des bienfaits reçus. Je pense par exemple à Saint Jean-Baptiste, qui est dans sa prison, qui demande, là qu'il est, découragé qu'il est, qui demande à des disciples d'aller trouver Jésus et de lui demander s'il est bien le Messie ou s'il faut en attendre un autre. Que répond Jésus à ses envoyés de Jean-Baptiste ? Allez dire à Saint Jean-Baptiste, allez dire à mon cousin Baptiste ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les estropiés retrouvent l'usage de leurs jambes. Étonnant que Jésus, ici, demande au contraire de se taire. Je suis allé fouiller un peu dans les motifs qu'ont trouvé nos chers commentateurs, nos chers théologiens, et voilà ce que j'y ai trouvé. Il s'agit d'abord d'une délicatesse envers le prochain. Cela pourrait blesser ceux qui n'ont pas reçu les mêmes bienfaits. Avouez que c'est assez bien vu. Parfois, nous avons cette tendance à répéter autour de nous qu'en ce moment tout va bien, que nous sommes comblés des grâces de Dieu, que la prière est tellement facile, et voire même que nous avons fait l'objet de tel ou tel miracle. Il y a une sorte d'impudicité à faire cela. Paradoxalement, nous croyons bien faire, évidemment, et ainsi montrer la grandeur de Dieu, sa toute-puissance, mais nous ne réfléchissons pas aux dommages collatéraux, si j'ose dire, c'est-à-dire à cette frustration que peuvent ressentir ceux qui n'arrivent pas à prier, ceux qui semblent embourbés dans leur vice et qui ne font pas l'objet d'un miracle, alités qu'ils sont depuis des années dans un hôpital. C'est donc le premier motif. Le deuxième motif, c'est une précaution à notre propre égard. Parce que dans un tel type de témoignage, vous savez, ces témoignages qu'on aime tant donner aujourd'hui, et on a substitué, je crois, à l'enseignement de la saine doctrine, qui parfois est un peu complexe, aride, nous avons substitué le témoignage. Voilà donc le nouveau catéchisme, c'est le témoignage. Alors, le témoignage a son intérêt, a son avantage, parfois, c'est vrai, des conversions sont opérées à la suite de témoignages, mais enfin, dans ce type de témoignage un peu impudique, il faut bien reconnaître qu'une tentation subtile existe, qui consiste à se mettre en avant nous-mêmes, et non pas Dieu qui a opéré le miracle. Voyez comment je suis, voyez dans quel état je suis. En réalité, il s'agit d'exhibitionnisme, rien moins. J'ai fait l'objet de grâce de Dieu. Dieu est venu me parler. Et c'est donc que je suis digne qu'il me parle, vous comprenez. Vous voyez un peu le genre de tentations subtiles dans lesquelles on tombe en étant des exhibes, pardon du terme, mais enfin c'est comme ça qu'on dit, des exhibitionnistes, des faveurs que Dieu nous a accordées. S'il vous arrivait d'avoir la visite de Dieu, du Christ, de la Vierge Marie, s'il vous arrivait d'avoir des voix, s'il vous arrivait de faire l'objet d'un miracle, ce qui est évidemment réel dans bien des cas, alors faites comme Jésus le recommande. N'allez pas le raconter autour de vous, allez trouver le prêtre. Pourquoi ? Pour que le prêtre puisse authentifier s'il s'agit bien d'une faveur de Dieu ou pas. C'est à ces ministres, ces pauvres ministres dont je suis, que Jésus a donné le soin de faire ce que l'on appelle, avec la méthode ignatienne, un discernement des esprits. Et il se trouve que parfois, ce sont nos propres autosuggestions qui nous font croire que nous sommes des favorisés de Dieu. L'origine de ces illusions, nous la connaissons. C'est le prince du mensonge qui aimerait nous faire croire que vraiment nous sommes quelqu'un de bien, qui aimerait nous faire croire que la vie spirituelle consiste d'abord en des faveurs extraordinaires ou en toutes sortes de messages que Dieu nous adresse. Encore une fois, je ne dénigre absolument pas ce genre de charisme ou ce genre de don que Dieu fait à qui il veut et quand il veut, mais j'attire votre attention sur le fait qu'il faut authentifier ça. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, donc, sur la prière, l'adoration. L'adoration est dans notre corps, même si notre âme est mal disposée. L'adoration par la reconnaissance humble que nous ne sommes rien, que Dieu est tout et qu'il peut tout nous donner. Et la discrétion. Et je vous ferai remarquer, je conclue par là, que lorsque nous entrons dans l'adoration, plus nous entrons dans l'adoration, et moins nous trouvons de motifs de nous plaindre de Dieu. Avez-vous remarqué combien nos contemporains, qui prétendent ne pas croire en Dieu très souvent, ont des reproches à faire à l'endroit de Dieu ? Je n'évoque ici que ceux qui maintenant sont tristement célèbres, les dessinateurs de Charlie Hebdo, qui prétendaient ne pas croire en Dieu et qui en permanence insultaient Dieu, en permanence lui reprochaient de n'avoir rien fait pour eux lorsqu'ils étaient jeunes, lorsqu'ils étaient enfants. Simone de Beauvoir était de ce calibre-là, qui prétend avoir perdu la foi parce qu'ayant demandé un miracle, elle ne l'a pas obtenu. Mais ma chère Simone, ou nos chers dessinateurs, il se trouve que en ne fréquentant jamais Dieu, vous n'en comprenez pas la logique. Mes voix ne sont pas vos voix, dit Jésus. C'est donc par l'adoration, par la fréquentation assidue, quotidienne de Dieu que nous en comprenons les mœurs et qu'alors nous ne trouvons plus de motif de nous révolter. J'en veux pour preuve le lépreux qui jamais ne maudit Dieu et qui ne dénigre pas le Seigneur. Il est dans l'état où il est, c'est-à-dire déliquescent au plan physique, et il ne se plaint pas. Pourquoi ? Parce qu'il adore et qu'il a compris la logique divine, la possibilité de surpasser la douleur. Le centurion romain est dans les mêmes dispositions, bien qu'un peu plus éloigné de la douleur, puisque c'est son serviteur qui souffre. Il ne reproche pas à Dieu, au Dieu des Juifs, au vrai Dieu, pas plus qu'il ne reproche à Jésus l'état de son serviteur. Il adore, et alors il comprend ce que Dieu veut. Je confie à la Vierge Marie le soin de faire descendre tout ce que je viens de vous dire, et je m'inclus dans les cibles de la Vierge Marie, tout ce que je viens de vous dire sur la prière, que nous puissions vraiment en vivre, que nous puissions enfin nous convertir, puisque c'est aujourd'hui la fête de la conversion de Saint Paul. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.